enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je discutais l'autre jour avec un monsieur, je lui ai dit ça va, et il avait une tête comme ça. Je lui ai dit ça va pas, il me dit non, j'ai des hauts et des bas. Je lui ai dit, mais je ne sais pas, j'essayais d'entrer un peu en conversation comme ça. Je lui ai dit, je ne sais pas, vous faites quoi? Il m'a dit, je travaille dans les ascenseurs. Bon, j'ai dit, alors ça explique, oui. Ça explique. Et votre femme, elle fait quoi? Il m'a dit, elle a surtout des bas. J'ai dit, elle fait quoi? Il m'a dit, elle est dans le textile, les chaussettes, les collants, tout ça. Ah, j'ai dit, bah oui, ça explique alors. Et entre vous, ça va? Il m'a dit, on a surtout des débats. Au début du débat, j'ai du débit. Et puis après, elle me dit, oui, tu me prends de haut. Je dis, bon. Alors, vous avez beaucoup de gens comme ça qui ont des hauts et des bas. Et quelquefois, ils ne savent pas pourquoi. Ils aimeraient savoir et ils aimeraient toujours. Et tout le monde aimerait toujours être en haut, hein. C'est mieux, c'est plus facile. Et puis quand on est en bas, eh bien, d'abord on se demande pourquoi. Alors en plus, un peu, on se culpabilise. Et puis on ne sait pas quand on va en sortir. Et c'est vraiment difficile. Et vraisemblablement, il y a des raisons. Seulement, il faut les trouver. S'il y en avait qu'une, ça serait facile. On mettrait la main dessus une bonne fois pour toutes. Mais malheureusement, c'est quand même plus complexe que ça, quoi. Hein. Et on est chacun d'entre nous, dans nos personnalités, on est chacun accessible à différentes choses qui peuvent nous faire perdre de l'altitude, qui peuvent nous faire perdre notre assurance. Et le texte que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est un texte dans lequel on voit une personne pour qui tout à coup un événement difficile a mis en valeur quelque chose qui sûrement était caché au dedans et qui tout d'un coup a éclaboussé ses circonstances et ce problème que cette personne avait. Eh bien, c'est une culpabilité, un sentiment de culpabilité, mais qui était caché à l'intérieur, hein, qui se voit pas comme ça. Parce qu'on peut avoir l'air... Il y a beaucoup de choses de ce que nous sommes réellement qui n'apparaissent pas. C'est l'évidence même, hein. Il y a des tas de choses de nous-mêmes que nous ne projetons pas sur ceux qui nous entourent, que nos proches ignorent complètement, même quelquefois nos tout proches. Nos très proches ne savent pas certaines des composantes de ce qu'il y a en nous. Vous avez des gens qui ont l'air des fois très très sûrs d'eux et qui, à l'intérieur d'eux, tremblent en face de chaque événement à venir. Seulement, leur façon de se prémunir de cet état difficile, eh bien, c'est une façon d'afficher une grande constance, une sûreté à toute épreuve. Et à l'intérieur, ils se disent, aïe, 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 qu'est-ce qui va encore arriver? Mais ça se voit pas. D'autres personnes ont toutes sortes de choses. Alors, j'aimerais voir avec vous, si vous voulez, un texte qui est dans l'Ancien Testament, parce que je vois que j'ai regardé un peu mes notes, et j'ai vu que tous ces temps, j'avais beaucoup prêché sur des textes que j'ai trouvés dans les évangiles. Alors là, on va repartir un petit peu en arrière dans le premier livre des rois. Alors si vous avez une Bible, on va suivre ensemble. Sinon, ben je lis et puis voilà. De toute façon, après ça, il y a quelqu'un qui me dénonce là au fur et à mesure, donc vous allez le trouver ici. C'est un épisode du grand prophète Élie. Et Élie, un homme absolument extraordinaire, fantastique. Et un moment, je passe vite au début, parce que je voudrais arriver rapidement au point particulier qui nous intéresse ce soir. Hein. Et au début donc du chapitre 17, un roi 17 au verset 1, voilà que donc ce Élie, un des habitants de Galaad, hein, a dit un jour à Akab, le roi, le grand roi Akab, il lui a dit, écoute-moi bien, aussi vrai que Dieu est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis un serviteur, eh bien, il n'y aura ces années à venir, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sauf si c'est moi qui le dis. C'est fort, hein? Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Il lui a dit, pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et là, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Donc Élie est parti et il a fait ce que la parole de Dieu lui avait dit. Il est allé s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et effectivement, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais jusqu'à ce qu'à un certain moment, eh bien, le torrent a été à sec, parce qu'il ne tombait effectivement point de pluie dans ce temps-là, comme Élie l'avait dit. Il n'avait pas seulement dit qu'il annonçait la météo, mais qu'il décidait de la météo. Déjà, l'annoncer, c'est pas facile, hein? Nous, heureusement, maintenant, on a des tas de satellites dans le ciel qui nous annoncent le temps qu'il a fait ces 3 derniers jours. Mais déjà, l'annoncer, c'est une chose. Mais le décider, ça, c'en est une autre, hein. Mais Élie avait dit, la météo, c'est moi qui décide, hein. Alors, je pense que quand il l'a dit, tout le monde a bien rigolé. Ils ont dit, celui-là, cette fois, il est givré. Le problème, c'est qu'au bout d'un temps, effectivement, la sécheresse devenait de plus en plus dure. C'est pour ça que Dieu lui dit, va te cacher, parce que sinon, tout le monde lui serait tombé dessus, hein, ne serait-ce que pour essayer de lui faire pleuvoir un petit coup. Alors, Élie était là au bord du torrent, et moi, j'avoue que cette scène, je trouve tout ça, bon, c'est vrai que c'est quand même mystérieux, quoi, hein. Boire l'eau du torrent, non, mais manger de la viande et du pain apporté par les corbeaux, faut quand même admettre que c'est fort, hein. Moi, le truc qui me tracasse toujours, j'aimerais demander un jour au Seigneur, j'ai dit, mais que les corbeaux l'apportent, bon, encore, ça me gêne pas beaucoup. Mais eux-mêmes, les corbeaux allaient prendre où ce pain et cette viande? Moi, c'est ça qui me tracasse. Mais ils allaient chercher ça où? Parce qu'il faut quand même qu'ils l'amènent de quelque part. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a un... Parce que quelqu'un se soit fait une fois ou l'autre un peu prendre son pain sur le bord de sa fenêtre par des corbeaux. Bon, le gars, il le fait une fois, mais vous comprenez, quand il s'est fait pirater une fois le matin, l'après-midi, il a mis le couvercle, hein? Bon, le lendemain, tout ça, et là, ça a duré quand même vraisemblablement des mois, jusqu'à ce que tout soit à sec, que le torrent lui-même soit à sec. Donc, ça a duré longtemps. Alors, est-ce que Dieu a demandé à quelqu'un, un de ses croyants, de préparer du pain et de la viande en lui disant « tu n'y touches pas ». Et l'autre gardait son pain et sa viande s'envoler tous les jours. Non, vous avez des gens qui sont consacrés, hein? Qui sont consacrés. Moi, j'aurais mis tout ça dans une cocotte minute avec un couvercle. J'aurais bien voulu voir que les corbeaux emmènent la cocotte minute, tiens. Alors, bon, ça c'est anecdotique, mais en même temps, c'est rassurant parce que ça nous rappelle que nous avons un Dieu qui n'est pas formaliste, hein. Un Dieu qui n'est pas limité dans sa façon de faire, hein. Il a le droit de faire comme il veut et il fait comme il veut. Et je pense que c'est avec le sourire que Dieu s'est dit, tiens, je vais lui faire le coup des corbeaux. Moi, je crois que Dieu Dieu est excessivement artiste, hein, créatif. Il a des tas de tours comme ça. Il peut faire comme il veut. Alors nous, ça nous plaît ou pas. Tout le monde trouve que c'est formidable d'être nourri surnaturellement maintenant, que les corbeaux l'amènent, surtout que, bon, vraisemblablement, ils l'apportaient, je sais pas, avec leur bec, je pense, hein, dans leur bec. Je sais pas, c'est pas dit. Mais si c'est avec leur bec, bon, je sais pas, le bec d'un corbeau, ça traîne un peu n'importe où aussi quand même, hein. Je sais pas si ces corbeaux, ils s'étaient bien brossés les dents avant d'aller chercher le... Hein? Quand je vois comment il y a des gens qui font des fois des chichis pour manger des trucs parce que ça a touché quelque chose ou quoi, ben vous auriez eu de la peine à manger l'arrivage du corbeau, hein? Hein? Faut aller dans d'autres pays des fois, vous mangez avec les mains, tout ça et tout. Alors là, vous découvrez, c'est sympa. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est de voir la puissance de Dieu. Et comment Dieu est capable de pourvoir. Si Dieu fait ça, vous voyez, pourquoi il fait ça avec Élie? C'est, à mon avis, ça a aussi un sens pédagogique pour Élie. C'est aussi une façon de dire à Élie, tu vois, Élie, n'importe où et dans n'importe quelle situation, je peux prendre soin de toi. N'importe où, je peux te nourrir. N'importe où, dans n'importe quelle situation, je peux te protéger. Je peux pourvoir à tous tes besoins. Et nous avons aussi, si Élie avait besoin d'entendre ce genre de discours, nous en avons besoin aussi, n'est-ce pas? Nous avons besoin de temps en temps de nous souvenir que Dieu peut nous nourrir avec des corbeaux, que Dieu peut nous protéger avec en faisant voir des visions, des fausses visions à nos adversaires, que Dieu peut diviser nos ennemis, que Dieu peut envoyer faire concourir des essaims de frelons. Quelquefois, il a fait ça avec pour Israël. Dieu peut faire n'importe quoi. Quelquefois, simplement parce que nous ne voyons pas tout de suite comment la solution peut arriver, alors on en déduit qu'il n'y a pas de solution. Mais ça, c'est vraiment limité. Ça, c'est complètement réducteur, c'est petit, c'est humain. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est tellement, Dieu est artiste. Dieu crée des nouveaux modèles. Il fait des choses extraordinaires. Et puis après, il a dit à Élie, bon, maintenant que tu as bien appris cette leçon, allez, on va en apprendre une autre. Alors il a dit, maintenant je t'envoie chez une femme vers Sidon, à Sarepta. Et je pense que pour Élie, c'était plus difficile parce que ça le faisait d'abord sortir de son pays. Nous, ça nous dit rien, Sarepta. Mais Sarepta, c'est pas dans Israël. C'est à l'étranger. Et quand on dit à un juif à l'étranger, dans ce contexte, ça veut dire dans un lieu impur. Chez des gens impurs. Des gens idolâtres. Des gens chez lesquels, normalement, ils aimeraient même pas mettre les pieds. Ils ne souhaiteraient pas leur serrer la main. Et Dieu lui dit, tu vas aller là-bas. Et c'est là-bas, j'ai demandé à une femme. Bon, Élie aurait mieux aimé que ce soit, je sais pas moi, quelqu'un d'un petit peu, je sais pas, dans le business par exemple. Hein. Mais une femme, et Dieu lui dit bien à l'avance, une femme veuve. Oh ben il dit le standing va pas monter alors. Et il est arrivé là. Il a vu cette femme, Dieu lui a montré qui elle était. Élie a dit à cette dame, il lui a dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Alors elle a été lui donner à boire. Il lui a dit, tu peux pas me donner un petit bout de pain, hein? Elle a dit, écoute, dans l'Antiquité, l'hospitalité c'était un devoir sacré. On ne peut pas refuser de donner du pain à quelqu'un qui demande. Mais cette femme lui dit, écoute, honnêtement, tout ce qui me reste, c'est comme ça, un peu de farine, à peine quelques gouttes d'huile. Je vais faire avec ça une petite galette. Avec mon fils, nous allons manger. Et après, elle dit, après, on va mourir. C'était sa situation. Mais Élie lui dit, et là ça nous paraît, quand on lit ce texte, ça nous paraît un peu difficile, on dit mais il est un peu exigeant. Et lui lui dit, d'accord, fais ta galette, mais donne-la-moi d'abord. Elle a dû se dire, est-ce qu'il écoute ce type ou comment là? Je viens de lui dire que nous n'avons que ça pour moi et pour mon enfant, et il réclame pour lui d'abord. Mais Élie s'est pas contenté seulement de dire donne-moi. Il a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Tu peux me faire confiance. Tu peux me donner ta petite galette. Parce que écoute bien ce que Dieu dit. Dieu dit que après ça, la farine ne va jamais manquer. L'huile ne manquera jamais. Écoutez, je me demande comment cette femme a pu croire une chose pareille. Comment cette femme a pu croire quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle connaissait Élie? Vraisemblablement pas. Elle sait pas qui c'est. Mais il y avait dans ses paroles une telle, allez, dans notre jargon, on dirait une telle onction. Une telle autorité. Quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, qu'elle s'est dit, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Elle lui a apporté. Mais une fois qu'elle lui a apporté, alors elle était chez elle, elle a regardé, à son grand étonnement, dans son petit bol, dans sa petite réserve de farine, où elle avait pris les dernières miettes, et maintenant il y en a encore. Ah. Et cette goutte d'huile qu'elle a versée, qui était la dernière, elle a coulé, pic, et il n'y en avait plus, mais maintenant, la bouteille est pleine. Ah. Alors elle s'est dépêchée de refaire à manger pour elle et pour son fils. Et quand elle a eu fait à manger, alors la coupe de farine était toujours pleine et la bouteille était toujours pleine. Et le texte dit que pendant toutes ces années de famine, toutes ces années de sécheresse, rien n'a jamais manqué. Bon, ils sont pas devenus, elle n'est pas devenue riche, elle n'est pas devenue célèbre, elle n'est pas devenue une star, mais elle a été quelqu'un qui a pu dire que tous les jours, elle vivait du miracle de Dieu. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est la présence, cette sorte de présence de Dieu, c'était comme les Hébreux dans le désert qui avaient plus qu'à se baisser tous les matins, ils sortaient et puis le garde-manger était devant la porte de la tente. Et ils ramassaient et puis ils mangeaient. Et ça devenait complètement, et le surnaturel de Dieu devenait le naturel de leur vie. Après, le danger, c'est de s'y habituer, hein. Parce qu'après, on peut s'y habituer. Tous les jours, le miracle n'est pas encore fait. Non, mais 2 minutes, il arrive. C'est comme on attend les infos, quoi. Ah, c'est à 20h. Oh, ils ont du retard aujourd'hui. Ah, 21h01. Ah, ben dis donc, ils sont en retard, attention. Ça devient courant, ça devient comme ça. Et nos cœurs peuvent s'habituer. Et ça, c'est très grave. Les Hébreux ont fait ça une fois. Imaginez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous en avons assez de cette nourriture misérable. Alors quand Dieu a entendu ça, il dit, là quand même, les gars, vous poussez le bouchon un peu loin. Hein? Non, il était fâché. Combien de gens dans notre monde parlent comme ça? Oui, si Dieu... Mais on dirait qu'ils parlent comme s'ils avaient eu la possibilité d'être à sa place, tu sais. Oh, mais si Dieu faisait comme si... Moi, je pense qu'on devrait plutôt, Dieu devrait... Mais tu veux prendre sa place 2 minutes? Ah ben le monde va être joli, tiens. Incroyable. Mais il faut que l'homme soit bête, hein. Non mais, enfin je veux dire, pas nous. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire les autres. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme, voyez, pendant longtemps comme ça, avec Élie, a profité de cette onction qu'il y avait sur l'homme de Dieu. Et pendant toutes ces années, elle était contente. Et avec son fils, ils étaient bien, ils étaient secourus, tout ça. Mais il y avait un problème dans son cœur que personne ne voit. Et je ne sais pas si elle-même en était consciente. Et voilà ce qui s'est passé. On lit au verset 17, chapitre 17, verset 17. On va relire quelques lignes ensemble, hein. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de maison, devint malade. Et la maladie de cet enfant était si violente qu'il a cessé de respirer. Alors cette femme dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Est-ce que tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Ça, je trouve ça très intéressant. Voilà une femme qui est tout à coup soumise à une difficulté terrible. Son enfant, elle est veuve. Son enfant, vraisemblablement un enfant unique, en tout cas, puisqu'on ne parle jamais d'autres enfants. Au début, elle a dit, je mangerai avec mon fils. Donc, vraisemblablement, elle est seule, c'est son fils unique. Et voilà que, sans doute très rapidement, il tombe malade, tellement malade qu'il meurt. Hein, c'est un hébraïsme, hein, il ne resta plus en lui de respiration, il est mort. Et sa première parole a été une parole de remise en cause par rapport à cet homme de Dieu qui est là. Et immédiatement, ce qui lui est venu à l'idée, la seule chose qui lui vient à l'idée, mais d'une façon absolue, d'une façon brutale, d'une façon totale, complète, c'est qu'elle le comprend comme le fait que son péché revient à la surface et que la mort de cet enfant, eh bien, c'est le jugement de son péché à elle. Mais si c'est ça qu'elle dit d'une façon aussi brutale comme ça, immédiatement, ça veut dire que c'est quelque chose en elle qui y est dans son cœur et qui y est depuis longtemps. C'est quelque chose qui est sans doute complètement recouvert, quelque chose qui a été dissimulé, quelque chose dont elle ne parle sûrement jamais, mais chez elle, la culpabilité est quelque chose d'extrêmement puissant. Et s'il arrive un problème, tout de suite elle dit, ça c'est le jugement de mon péché. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle pense à un péché particulier, qui la taraude particulièrement, ou est-ce que c'est plus globalement un état de péché, ça? On ne sait pas, le texte permet pas de le savoir. Mais en tout cas, ça veut dire qu'elle est sous une chape de culpabilité, ça se voit pas. Jusqu'à ce qu'arrive l'épreuve qui oblige la chose à sortir de son cœur, ça se voit pas. Elle a l'air très bien. Elle peut aller à l'église ou au temple à l'époque, ou peut-être qu'avec Élie, ils peuvent prier, ils peuvent chanter des cantiques, ils peuvent lire les psaumes, tout va bien. Mais quand quelque chose l'oblige à se regarder en face, alors tout ce qu'elle trouve, tout ce qu'elle voit, c'est seulement le jugement de sa culpabilité. Et je crois que même dans l'Église, même dans le peuple de Dieu, je crois qu'il y a des chrétiens qui ont le même problème. Hein. Et ça ne les empêche pas de venir à l'Église, ça ne les empêche pas de prier, de chanter, Forcément, ça occasionne chez eux dans leur vie, comme je le disais dans l'introduction, des hauts et des bas. Parce que quand ils arrivent à oublier cette culpabilité, alors ils se sentent bien. Mais quand la moindre chose, une difficulté, un problème personnel, un échec dans leur vie, des difficultés, souvent c'est peut-être plus les mamans, mais quand elles ont des difficultés avec leurs enfants, des enfants adultes qui ont des problèmes, etc. Et combien sont là, elles sont complètement taraudées. Oui, c'est parce que j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas été comme il faut, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une tonne de culpabilité qui est dedans, qui y était déjà, qui n'y est pas rentré juste maintenant. Mais quand l'épreuve arrive, alors ça devient forcément tout de suite, toujours, une sorte de remise en cause. Ça veut dire que je suis pas bien, ça veut dire que je suis pas juste, ça veut dire que Dieu est pas d'accord avec moi, c'est Dieu qui me punit, etc. Et tout ça revient, et ces gens disent comme cette femme, c'est le souvenir de mon iniquité, c'est mon péché qui entraîne tout ça. Et il faut que ces choses-là soient réglées en vous. Si c'est pas réglé, si vous n'êtes pas clair avec le règlement de vos péchés, forcément vous pouvez pas être bien. Un jour oui, un jour non. Une fois, un moment oui, un moment non. Dès que le diable peut vous commencer à vous glisser quelques mots à l'oreille, vous êtes là en train de, comme tout à l'heure, en train de louer, adorer, alléluia, le diable passe derrière, il dit ouais. Tous les hypocrites baissent la main. Et pof, ça y est, t'as les bras, t'as 50 kilos sur chaque bras. Ah oui, c'est vrai, je ne sais pas. Alors après, on dit, ton conjoint te redit, mais écoute, la parole de Dieu dit que le sang de Jésus nous purifie. Et oui, c'est vrai, oui, si, c'est vrai, alléluia, je suis pardonné. Alléluia. Oui, mais j'ai recommencé après. Et de nouveau, ça revient. Et c'est un miracle de Dieu de pouvoir vivre dans la justification. C'est Christ qui est notre justification. C'est un miracle. Parce que C'est un miracle parce qu'aucun d'entre nous n'a pu être juste. Mais même le fait de recevoir la justification que Christ est pour nous, c'est un miracle que Dieu fait pour nous. C'est la foi, personne, la foi dans la justice de Christ, personne ne peut la fabriquer. Personne ne peut la mériter, personne ne peut la produire, personne ne peut se l'accaparer. C'est Dieu qui nous donne la foi. C'est seulement la puissance de la parole de Dieu qui nous permet d'entrer dans cette assurance. Comprenez-moi bien, quand on, des fois on dit ces choses-là, quelquefois certains ont peur que ça puisse devenir une espèce de doctrine qui aideront les gens après à faire n'importe quoi. Comme si, sous prétexte que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, comme si après on pouvait faire n'importe quoi. Mais non, c'est le contraire. Plus on vit dans cette intimité avec le sang de Jésus qui nous pardonne nos péchés de l'intérieur, alors plus on craint Dieu et plus on a envie de se détourner du mal. Plus on craint le mal, plus on le déteste, plus on a envie de le fuir. Voyez, Dieu, je crois, a causé ce problème dans la vie de cette femme parce qu'il veut régler son problème. C'est parce qu'il veut pas la laisser dans cet état, même si ça ne paraît pas. C'est comme une enclume qu'elle a au fond de son âme. Elle est alourdie dans toute sa vie. Elle est mal. Donc il faut que ça vienne à la lumière. Et la seule façon pour que ça vienne vraiment à la lumière, il fallait un traitement difficile. Au verset 19, Élie lui a dit, donne-moi ton fils. Et il l'a pris du sein de sa maman, il l'a monté dans sa chambre à lui, sur la terrasse, là où il demeurait, il l'a allongé sur le lit, et puis il s'est mis à prier, parce que lui, il savait prier. Il a invoqué l'Éternel, il a dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais cette veuve chez qui j'ai été reçue avec tellement d'hospitalité jusqu'à faire mourir son fils? Et Élie s'est étendu sur l'enfant. Le texte dit trois fois. Ça veut dire qu'il s'est étendu sur l'enfant. Bien sûr, il n'imaginait pas, et il n'était pas plus naïf qu'un autre, il n'imaginait pas que la chaleur physique de son corps à lui allait réchauffer, redonner la vie à cet enfant. Mais c'est une démarche de foi. C'est parce qu'il voulait manifester, qu'il voulait lui communiquer cette vie. Mais s'il l'a fait trois fois, c'est qu'il l'a fait, puis ça produisait rien. Le cadavre restait un cadavre. Alors il s'est relevé, il a prié, il a dit, Seigneur, écoute, regarde, agis pour cette femme. Il est retourné. Et puis, jusqu'à trois fois. Je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de sa chambre et il l'a ramené dans la maison, il l'a donné à sa maman. Et il dit, tu vois, voilà, ton fils, il est vivant. La femme a dit, maintenant je reconnais, tu es vraiment un homme de Dieu. Et tout ce que tu dis dans ta bouche, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu voulait traiter son problème. Dieu veut traiter nos problèmes de culpabilité. Et quelquefois, il va ramener dans nos vies des choses à la lumière, hein, pour que nous les traitions. C'est-à-dire pour que lui les traite. Hein. C'est pas nous qui avons, c'est pas une espèce de, je fais pas confiance à une sorte de, une espèce de thérapie ou des mécanismes psychologiques. Hein. Ce que nous voulons, c'est que Dieu touche le dedans de notre âme. Hein. Quelle que soit la méthode par laquelle Dieu nous guérit, que ce soit physiquement, psychiquement ou spirituellement, quelle que soit la méthode que Dieu utilise, nous ne serons guéris et délivrés que quand Dieu nous aura touchés. Parce que c'est lui qui a autorité sur nos vies. Et Dieu a amené cette femme dans cette situation pour qu'elle puisse voir que dans cette situation, Dieu, par un miracle puissant, un miracle de résurrection, Dieu lui a démontré qu'il n'était pas en problème avec elle. Dieu lui démontre par là qu'il est d'accord avec elle, qu'il l'aime, qu'il approuve sa vie, qu'il authentifie sa vie. Il fallait vraiment quelque chose de fort. C'est ce qui prouve que le problème de cette femme était extrêmement fort. Il lui fallait une résurrection que Dieu fasse pour qu'elle puisse se rendre compte que finalement, mais Dieu m'aime quand même. Alors après, elle sait que son péché est aussi enlevé. Regardez comment Dieu a traité le problème de l'apôtre Pierre. Comment Jésus a traité le problème de l'apôtre Pierre. Si Jésus n'avait rien fait, mais l'apôtre Pierre aurait trimballé sa culpabilité toute sa vie, ça aurait été épouvantable pour lui. Imaginez, il avait renié le Seigneur. Il a même dit qu'il en a rien à foutre. Des imprécations. C'est dit sobrement. Des imprécations. Mais après la résurrection, c'était pas longtemps après, le troisième jour, il est là, Jésus arrive. Vous croyez que Pierre était fanfaronnet comme il pouvait faire dans d'autres circonstances quelque temps avant? Vous croyez que dans la chambre haute avec les 11, Pierre s'est précipité, alléluia! Moi je crois qu'il était juste derrière, ouais, derrière tout le monde, parce que lui il sait bien quelle est sa situation. Alors, s'il traite pas ça, si cette culpabilité n'est pas réglée, toute sa vie, il a un problème. Chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose, chaque fois qu'il va être en difficulté, le diable va lui dire, allez, les renégats, là, oh là, les traîtres. Et il pourra rien faire. Il pourra pas adorer, il pourra être libre, il aura jamais confiance en lui-même, confiance dans ce que Dieu... Alors Jésus l'a amené dans une situation pour régler son problème. Jésus lui a fait faire une nouvelle pêche miraculeuse parce que c'était à la suite d'une pêche miraculeuse qu'il l'avait appelé. Donc il lui fait de nouveau faire une pêche miraculeuse et Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, ouais, bien sûr, je t'aime. Bien sûr, au début, il n'a pas compris ce que Jésus voulait dire. Oui, bien sûr, je t'aime. Et Jésus le confirme dans son appel. Tu t'occuperas, tu es le berger du troupeau. Jusqu'à la troisième fois, Jésus lui demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et là, tout d'un coup, Pierre, tac, maintenant il a su de quoi on parle. Il sait que Jésus est en train de traiter la question du triple reniement. C'est pas pour rien que Jésus lui demande trois fois, est-ce que tu m'aimes? Jésus a même dit la première fois, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ne m'aiment? Parce qu'avant, c'était ça qu'il avait dit. Tu sais, les autres, compte pas sur eux. Moi, je suis là. Hein? Tu peux y aller. Les autres, moi, je serais toi, je compterais pas dessus. Hein? Mais je suis là. Jusqu'au bout. Alors, il faut que Jésus traite ça. Il faut que Jésus montre qu'il le sait. Que cette situation ne va pas être réglée en mettant un mouchoir dessus. Ça va pas être réglé en faisant semblant de l'ignorer. Nos problèmes ne vont pas être réglés en faisant semblant de les ignorer. Aucun problème ne va être réglé en faisant semblant de croire qu'il n'a pas existé. Et j'aimerais te dire que ton problème ce soir ne se réglera pas en faisant semblant de croire qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes, ils doivent être traités comme tels. Et il faut quelquefois qu'ils viennent devant Dieu à la lumière. Jésus l'a fait remonter le problème du cœur que Pierre avait, ce problème de culpabilité. Jésus l'a fait revenir. Quand la troisième fois, il lui a dit, écoute, je n'ignore pas ce que tu es, mais je te confirme que tu es bien un berger dans mon troupeau. Alors Pierre sait qu'il est pardonné. Maintenant, il sait qu'il peut aller de nouveau de l'avant. Il sait que son problème a été traité. Cette femme devait voir son problème traité. Plusieurs fois, David s'est souvent exprimé dans les psaumes comme ça. Au psaume 130, j'aime bien cette question, il dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui subsisterait ?» Si Dieu garde le souvenir de nos iniquités, c'est dans l'Ancien Testament, mais David a posé une question qui est une question brûlante, une question cruciale, une question qui nous concerne tous aujourd'hui. Si Dieu garde le souvenir de nos iniquités, qui subsistera? Il ne faut pas que Dieu puisse garder le souvenir de nos iniquités. Il faut qu'elles soient réglées. Il faut que le sang de Jésus-Christ vienne au-dedans de nous pour nous laver et nous purifier, pour que nous soyons justifiés. Et il faut donc que nous ayons foi dans ce traitement. Il faut que nous ayons foi que c'est la seule, que c'est le seul traitement, qu'il n'y en aura jamais d'autre. Mais que si Dieu nous donne la foi dans ce traitement, alors nous allons être complètement changés, transformés, et nous ne pourrons, et nos anciennes fautes ne pourront plus revenir nous harceler. Elles pourront plus revenir nous peser comme ça. Elles pourront plus nous taper sur la tête matin et soir. David dit dans le psaume 25:7, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. » Un peu plus loin, il dit aussi, au psaume 79:8, « Ne te souviens plus de nos iniquités. » À un moment, il dit, David a dit, comment c'est exactement, il dit, ne ramène pas tes péchés, mais viens vers moi avec tes compassions. » Viens vers moi avec tes compassions. Comme si pour David, comme si la compassion, les compassions de Dieu étaient quelque chose de concret qui précède Dieu, qui vient devant Dieu et qui apporte comme un cadeau de comme une solution, ce qui solutionne nos péchés. Ésaïe a dit aussi, enfin, il parle de la part de Dieu, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Hébreux encore, on peut lire dans Hébreux. Hébreux au chapitre 8. Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son frère. Personne ne dira « Connais le Seigneur » parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Dieu dit « Je ne m'en souviendrai plus ». Dieu ne veut plus s'en souvenir. Il faut que le Saint-Esprit nous donne cette révélation pour que nous puissions accepter de ne plus nous en souvenir nous-mêmes. Pour que nous puissions nous dégager du fardeau de la culpabilité qui peut nous faire constamment chuter, retomber. Encore au chapitre 10, on trouve à peu près la citation du même passage encore, chapitre 10, verset 17. Dieu et il redit, citant de nouveau le même passage de Jérémie, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Frères et sœurs, quand il nous arrive là où on voit quelquefois qu'on est concerné, c'est quand il nous arrive tout d'un coup un malheur, une difficulté, un problème. Quelle est notre réaction? Combien souvent c'est oh, ça y est, Dieu m'a retrouvé. Dieu m'a retrouvé. Ça y est, maintenant je vais payer. Et ça montre que le traitement de la culpabilité n'est souvent pas complet dans le cœur des chrétiens. Alors bien sûr, c'est difficile. Vous avez des hauts et des bas, des jours où vous arrivez à oublier, et puis des jours où ça vous revient en pleine face. J'aimerais vraiment que puissions demander ce soir ensemble au Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu nous permette de rentrer dans cette compréhension. Que personne ne puisse tenter de couvrir ses problèmes intérieurs. Nous avons toutes sortes de possibilités d'être déstabilisés. La culpabilité latente, c'en est un. Il y a aussi, malheureusement, d'autres problèmes. Mais ça, c'en est un. Mais il faut que nous demandions au Seigneur, est-ce que vraiment je suis sûr que tu m'as tout pardonné? Est-ce que vraiment nous croyons que Dieu nous a pardonné? Souvent, on est capable de le dire aux autres. Si on voit quelqu'un qui est en difficulté avec ça, quelqu'un qui se tourmente, on est capable de lui donner tous les bons versets. Mais quand il faut se les appliquer à soi-même, ben quelquefois on a des doutes. Oui, mais quand même, est-ce que c'était grave ce que j'ai fait? Est-ce que Dieu... Voilà. Et alors, du coup, on n'est pas sûr. Et chaque fois qu'on perd de l'assurance, on perd de l'autorité. Et chaque fois qu'on perd de l'autorité, on perd de la liberté. Et quand on perd de la liberté, on perd nos capacités de service. Mais le Seigneur, la puissance de Dieu est capable de changer ça au-dedans de nous. Que nous ne soyons pas devant Dieu comme craignant un juge qui arrive avec sa facture. Prions le Seigneur. Seigneur, je voudrais vraiment te demander ce soir que nous puissions vraiment recevoir pleinement le bénéfice de ce vêtement de justice que Christ donne à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui le sont devenus par la foi. Seigneur, tu vois, je voudrais vraiment te demander que, même si, je sais pas, honnêtement, je crois pas que ce que j'ai dit ce soir soit vraiment très clair pour tout le monde. Mais Seigneur, je voudrais que ton Saint-Esprit puisse révéler ce qui est nécessaire à chacun. Pour que les enfants de Dieu ne soient pas libérés pour une part, et traînant derrière eux des boulets d'autre part. Seigneur, passe dans les cœurs, passe dans les rangs. Seigneur, que la révélation de la puissance de l'Évangile, une liberté, la liberté pour ceux qui croient, une puissance de liberté pour ceux qui croient, que ce soit maintenant une délivrance, une délivrance pour tous ceux qui sont affligés au-dedans de leur âme. Au nom de Jésus, agis maintenant Seigneur. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.